Notre espérance est en Dieu. Qui que nous soyons, jeunes ou vieux, entre les deux, enfants, grands-parents, quelles que soient nos croyances, nos doutes, notre religion, notre philosophie, que nous soyons en pleine forme ou un peu souffrants, que chacun, que chacune d'entre vous reçoive maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. Merci d'être là ensemble, parce que c'est vrai que c'est une vraie force de se retrouver unis pour chercher ce que Dieu veut nous apporter pour transformer notre existence. Et ensemble, nous allons donc commencer par remercier Dieu, le remercier pour tout ce qu'il donne dans notre existence avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français. Il y a un petit livret blanc qui commence par ce chant « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Donc nous nous unissons dans ce chant de louange. Alors maintenant, c'est Ambre qui va nous lire un texte de louange qui a été écrit par Myriam l'année dernière à l'occasion de son baptême. Donc merci beaucoup à toutes les deux de faire équipe pour entrer dans la louange.
Le jour où j'étais en détresse, Dieu est venu m'aider. Le jour où j'avais peur, Dieu est venu me réconforter. Le jour où j'étais puni, Dieu ne m'a pas grondé. Le jour où j'étais accusé, il m'a défendu. Ceci prouve que nous sommes enfants de Dieu. Quelle que soit notre religion, il nous aime d'un amour éternel.
Un grand merci, Ambre, pour cette belle louange à Dieu. Et puis maintenant, nous y mettons tous ensemble pour poursuivre avec le psaume 47. Donc, c'est dans le psautier français, le recueil avec un peu de couleur. On va chercher le numéro 47 et on chante les trois premières strophes. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains. Chacun chante plus fort que son voisin.
Thank you.
Alors vous pouvez prendre place. Et puis c'est Clémence qui va nous lire qu'est-ce que Jésus-Christ nous propose de vivre pour que vraiment le monde soit beau et que notre vie soit rayonnante. Merci Clémence.
Écoute le Seigneur ton Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là.
Merci beaucoup, Clémence. Et maintenant, c'est Gabriel que j'appelle pour qu'il puisse nous lire. Donc, une prière pour demander à Dieu d'être meilleur. Ah, voilà, voilà. Donc, ça s'appelle la prière de repentance. Merci beaucoup.
Ô notre Dieu, heureusement que tu nous connais et que tu nous aimes, d'un amour que rien ne peut attaquer, ni rouiller, ni voler, ni salir. Tu nous aimes d'un amour éternel. Cela nous permet de t'adresser à toi sans crainte, pour recevoir le réconfort de ton pardon et que tu nous aides à progresser. Seigneur, nous t'avons trop souvent oublié, alors que tu es la source de bonté. Seigneur, avons-nous assez aimé celui qui, près de nous, avait besoin de notre amitié et de notre aide? Seigneur, avons-nous assez pris soin de nous-mêmes? Soin de progresser, soin de fortifier notre corps, notre sagesse et notre foi. Ô Dieu, viens à notre aide. Amen.
Grand merci. Et maintenant, c'est Yaël qui nous annonce le pardon de Dieu qui est donné à chacune et à chacun.
Vous qui avez faim et soif de son pardon, soyez heureux, car Dieu est un ami fidèle. Vous qui avez faim et soif de sa présence, soyez heureux, car il vient vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, soyez heureux, car notre Père nous aime et il nous donne un cœur de chair pour aimer une espérance qui ne trompe pas et une vie joyeuse qui porte de bons fruits.
Un grand merci, Yaël, pour cette donc annonce de la grâce et du pardon de Dieu. Et en réponse à cet amour de Dieu, ce pardon, eh bien, nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le chant qui est dans les petits livrets blancs. Voilà, on se lève pour remercier Dieu. Et maintenant, c'est une équipe, Toscane et Balthazar, qui vont nous lire la confession de foi à deux voix.
Je crois en Dieu, notre Père, en sa bienveillance et en la bonté qu'il tient pour chacun d'entre nous.
Je crois en Jésus-Christ, qui est venu nous apporter sa parole d'amour et y a donné sa vie terrestre.
Je crois en la force de son message, qui donne l'espérance dans les heures de doute, la lueur toujours présente, même dans les ténèbres.
Lorsque viennent la peur, l'angoisse, les doutes, il nous accompagne et son message nous donne la force d'avancer pour nous et pour les autres.
Il est également présent, même si nous le trouvons plus difficilement, pour calmer notre colère ou accorder notre pardon.
Je crois en l'Esprit Saint qui souffle dans nos esprits, nos âmes, nos cœurs, le message du Christ.
Je crois qu'unis les uns aux autres, nous progresserons.
Je crois en l'amour de Dieu qui jamais ne passera, ni ne cédera à la nuit. Amen.
Un grand merci à tous les deux d'avoir donc lu cette confession de foi qui a été préparée par Fabien, donc un adulte qui a été récemment baptisé. Et ensuite, voilà, le spontané, le petit chant, confession de foi.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen.
Merci Charles.
Mettons-nous à l'écoute d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jean qui nous la transmet de la part de Jésus-Christ. Ça se trouve dans le chapitre 14 de son témoignage, de son évangile, à partir du verset 8. Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Alors Jésus lui répond, « Mais Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais même pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Moi, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Et tu ne crois pas ça ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Alors croyez-moi quand je vous dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. Car je vous le dis, et c'est vraiment vrai, celui qui croit en moi, il fera lui aussi des actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que moi je vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, eh bien, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous et toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste en vous et parce qu'il habite en vous. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 258, les trois premières strophes. Je vous invite à vous asseoir. Avant que nous partions à l'école biblique, on va lire le texte sur lequel vous aussi vous allez entendre le commentaire. Ce texte, il est extrait du livre de Genèse, le tout premier, et c'est en plein milieu d'une très longue histoire, une histoire qui est comme une saga, qui est très très longue, c'est l'histoire de Joseph. Alors, ce texte, il est pris dans le chapitre 43, à partir du verset 15. Il s'agit d'un repas un peu bizarre. Les frères préparent les cadeaux et les deux sommes d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son intendant: conduis ces gens chez moi, fais tuer une bête et prépare-la. Et à midi, ils mangeront avec moi. Alors l'intendant fait ce que Joseph lui a commandé et il conduit ses hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer dans la maison de Joseph, ils tremblent de peur. Ils pensent: c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous, ils vont nous faire du mal, ils vont même prendre nos ânes et peut-être nous réduire en esclavage. Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de l'intendant et ils dirent « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter de la nourriture chez vous. En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous avons ouvert nos sacs et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. Et c'était exactement la somme que nous avions payée pour avoir ces sacs. Donc aujourd'hui, nous rapportons cette somme. Mais nous avons aussi une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Mais nous ne savons pas qui est-ce qui a mis cet argent dans nos sacs. » Alors l'intendant répond, « Bon, soyez tranquille et n'ayez surtout pas peur. Moi, je vais vous le dire, c'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent est à vous. Moi, je l'ai bien reçu. » Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds. Et il donne même de l'herbe à leurs ânes. Les frères préparent des cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi, parce qu'ils comprennent en effet qu'ils vont manger là, avec Joseph. Alors quand Joseph arrive, ils se pressent de lui présenter les cadeaux qu'ils ont apportés. Et ils s'inclinent, ils se prosternent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont. Puis il ajoute, « Mais vous m'aviez parlé de votre vieux père. » Et comment il va? Est-ce qu'il est encore vivant? Alors ils répondent, oui, oui, ton serviteur, notre père va bien, il est encore vivant. Et à nouveau, les voilà qui s'inclinent jusqu'à terre devant Joseph. Puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Alors il demande, mais vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère, c'est bien lui? Et alors il dit à Benjamin, que Dieu te bénisse, mon enfant. Et quand il voit Benjamin, Joseph est extrêmement ému de compassion et ses yeux se remplissent de larmes. Alors il sort précipitamment, il se dépêche d'aller dans sa chambre pour pleurer. Puis il se lave le visage et il revient. Il cache ses sentiments et il dit « Servez le repas ». Alors on sert Joseph, mais Joseph est seul à table et ses frères sont à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux parce que leur religion l'interdit. Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardent les uns les autres et sont très surpris. Ils voient que Joseph leur a fait servir des plats qui sont sur la table, mais qu'il a fait donner à Benjamin un plat 5 fois plus rempli que les plats de ses frères. Alors ils se mettent à boire et beaucoup de vin avec Joseph. Voilà l'histoire. Alors vous pouvez partir.
Donc on va étudier maintenant et puis toute l'après-midi donc l'histoire de Joseph après avoir fait Abraham, Isaac, Jacob. Aujourd'hui donc c'est Joseph. En face il y a 2 prédications, une prédication pour les enfants de niveau cours élémentaire, une prédication avec le premier avec Cristal et la deuxième cours moyen avec moi-même, les moniteurs monitrices. Et puis on laisse les catéchumènes, Regina pour eux. Vous tous pour cette prédication sur Joseph. Merci Alexandre à l'orgue.
Bon, avant de prier, nous allons quand même demander l'aide de l'Esprit que Jésus nous a promis, dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous prions. Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que ton esprit vienne trier dans notre cœur et dans notre esprit pour mettre de côté ce qui est inutile et pour qu'une parole de vie, une parole qui vienne de ton cœur et qui aille à notre cœur, puisse vraiment nous soutenir, nous marquer et construire notre semaine. Amen. Voilà, la rencontre entre Joseph et ses frères semble bien compliquée. Et vous voyez que ça se joue, cette rencontre. En fait, c'est la première fois qu'ils se voient depuis bien longtemps. Eh bien, cette rencontre se fait autour d'un repas, comme il est coutume de le faire en famille, à des moments clés de l'existence, parce que ce repas, c'est un moment clé dans l'histoire de Joseph. Mais la manière dont l'événement a été organisé par Joseph, tout comme la disposition des uns par rapport aux autres, nous fait craindre le pire pour la suite. Alors nous, on le sait, parce que les repas de famille ont le pouvoir de renforcer les liens, ça c'est vrai, mais ils peuvent aussi faire éclater les fratries. Combien de ruptures douloureuses et définitives ont été conclues autour d'un repas, et d'un repas familial. Ici, tout doit être calculé, car l'enjeu du repas est de taille. La famille de Jacob, privée depuis de longues années d'un de ses membres qu'elle a rejeté, se retrouve presque au complet, parce que complet, le vieux père, en fait Jacob, lui, n'est pas là. Et c'est celui qui a subi le rejet des siens qui invite. Mais les invités ignorent que c'est leur frère. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Joseph est le seul à savoir qu'il y a là ses frères, parce que pour ses frères, cet homme, c'est un Égyptien qui joue avec eux en les soupçonnant d'espionnage, en plus en gardant Siméon en otage pour qu'il lui ramène Benjamin, le dernier-né de la fratrie, et en plus l'autre préféré du père. Un petit peu le préféré de remplacement, puisque le préféré qui était Joseph, eh bien, ils l'ont éliminé. Alors, à quoi joue Joseph en se montrant tout en se cachant? Et quel intérêt il a à freiner le cours de l'histoire familiale en ne dévoilant pas tout de suite la totalité de son identité? Alors, je parle de totalité de son identité parce que, comme nous tous, il est fait de plusieurs identités superposées. Et puis, comme pour tout exilé, car c'est un exilé, son identité est vraiment très compliquée, très complexe. Et comme pour beaucoup de réfugiés, elle a un aspect disparate du fait des aléas rocambolesques de la vie et de sa vie. Alors déjà, Joseph, lui, il était bien né. Il avait de la chance. Il avait beaucoup d'atouts. Mais ses atouts sont devenus des handicaps. Ses atouts ont fait son malheur. Alors, quels sont ses atouts? D'abord, il est le préféré de Jacob. Il a eu 12 fils. Eh bien, parmi les 12, c'est celui qu'il préfère. Et cette distinction parmi ses 12 fils a donné à la vie de Jacob un destin d'exception, mais aussi un destin dramatique. Son père ne peut pas s'empêcher de le préférer. Et ainsi, il provoque la jalousie de ses frères. C'est quand même naturel. Et en plus, Joseph aggrave son cas. Dans une naïveté incompréhensible, il provoque ses frères en racontant en racontant des rêves de grandeur qu'il a fait et dans lesquels toute sa famille se prosterne devant lui. Ses frères sont des petites étoiles et son père et sa mère, c'est la lune et le soleil, et ils s'inclinent tous devant lui. Alors vous comprenez pourquoi le texte dit que ses frères étaient incapables de lui parler avec amitié. Je crois qu'on aurait été dans la même situation. Et littéralement, il faut entendre cette phrase en hébreu, Ils sont incapables de lui parler avec shalom. Shalom, c'est un terme qui, de nos jours, amorce toute conversation si vous allez en Israël. Ma shalom, quand on rencontre quelqu'un, ça veut dire ben, quel est ta paix là aujourd'hui? Comment tu vas, en gros? Ce shalom, c'est pas seulement une monnaie d'échange verbale, c'est pas seulement une expression toute faite, c'est aussi l'expression d'un souhait d'intégrité pour l'autre. C'est le rappel d'une situation d'intimité tranquille entre deux personnes. On se connaît bien, on s'aime bien, on s'apprécie. Mais c'est aussi l'évocation d'une situation où tout va bien. C'est le mot même pour dire la qualité de l'alliance entre Dieu et son peuple quand tout va bien. Alors on comprend pourquoi, entre ses frères et lui, la relation est tendue. Elle est tellement tendue qu'elle engendre chez ses frères des pulsions meurtrières, j'ai bien dit meurtrières. Quand il le voit arriver, d'abord il se moque de lui, il l'appelle alors l'homme au songe, hein, pour se moquer de lui qui fait des rêves vraiment incroyables. Eh bien, quand il le voit arriver, il se moque de lui et déjà, ils ont envie de le tuer. Et ils projettent de le tuer. En fait, on pourrait dire que l'élection de son père en a fait un homme à abattre. C'est, on pourrait dire, un élu qu'on envie, mais dont le sort n'est pas du tout enviable. Alors finalement, Joseph va échapper de peu à la mort, parce que ses frères vont se résoudre à ne pas le tuer, mais quand même, pour leur profit, ils vont le vendre à prix d'argent à des caravaniers. Et puis alors, attention, assez cher, trois fois son poids, 220 kilos d'argent. Et ces caravaniers vont le revendre comme esclave en Égypte. Bon, finalement, le malheur de Joseph fait le bonheur de beaucoup de monde. Vous savez qu'à l'époque, réduire quelqu'un en esclavage, c'est une manière radicale de le faire disparaître de son horizon, sans avoir besoin de verser son sang. Alors, comment dire à Jacob, qui préfère Joseph, comment dire qu'il n'est plus là? Eh bien, ils font tout un montage, ils mentent, et puis surtout, ils ne se présentent pas directement devant le père, ils envoient des serviteurs pour le lui dire. Ils font croire au père qu'il a été dévoré par des bêtes sauvages. Voilà. Mais là encore, Joseph va s'en tirer. Bien que réduit à sa position d'esclave, il est encore distingué par le maître à qui il a été vendu. Et surtout, c'est d'actualité, il est distingué par sa femme, la femme de son maître, Potiphar, l'Égyptien, qui jette son dévolu sur lui parce que pour son malheur, il a hérité de la beauté de sa mère. Alors son destin, c'est de susciter l'envie, puis alors toutes sortes d'envies bien sûr. Hein. Son histoire, c'est d'être toujours remarqué, et quand on est remarqué, évidemment, on est exposé. Et son destin, c'est d'être élevé, mais aussi rabaissé. Alors quand même, je m'arrête un petit peu sur le sens du mot « Joseph ». Le mot « Joseph » signifie, enfin dans le mot, dans son prénom, il y a caché deux racines. Qui veulent dire le contraire. Mais par la malice de la conjugaison, ces deux racines finissent par se confondre, faire une seule racine en hébreu. Ça veut dire à la fois enlever et ajouter. Ben, c'est exactement le sort de Joseph. On l'enlève, on le rajoute, on lui enlève des choses, on lui ajoute des choses. On peut tout lui enlever, mais par là, on peut aussi tout lui donner. Alors on va voir justement ce qu'on va lui donner en lui retirant son statut de frère et son statut de fils hébreu. Alors la continuité de sa vie se lit dans la succession de situations contrastées qu'il traverse. On le retrouve en prison, et oui, en prison, justement à cause de la femme de Potiphar qui le trouvait vraiment trop mignon. Il est en prison de manière tout à fait injuste, mais là on le retrouve en prison comme expert en rêve. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui rêve, mais il va devenir l'interprète des rêves des autres. Alors, qu'est-ce qu'en dit Dieu, le Père, le Dieu de ses pères? Ben, il dit rien, rien du tout. Pour une fois dans la Bible, Dieu ne parle pas. Alors nous, on était habitués, on avait vu, vous avez tous, vous vous souvenez des histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu intervient, Dieu dit, au bon moment, pour faire tourner l'histoire, pour la faire avancer, pour la freiner, là, il ne dit rien. Alors quand même, là, On sait une chose, c'est ce que dit le texte, Dieu se tient avec lui, dans la bonté et la fidélité. C'est tout ce qu'il fait. On peut dire qu'il est passif. Et pourtant, c'est bien Dieu qui va faire remonter la pente à Joseph, la pente de la considération sociale. Son interprétation en prison, son interprétation des rêves, montre sa connivence avec le Dieu silencieux, certes, mais le Dieu qui est le Seigneur, acteur de l'histoire universelle. Sa réputation, c'est l'interprétation de ses rêves, montre que ce qu'il dit se réalise. Alors sa réputation d'expert en interprétation, alors les Égyptiens appellent ça le devin, cette réputation le fait sortir de prison. Il est devenu un interprète très sûr de l'histoire. On pourrait dire, nous, avec une pensée plutôt biblique, que c'est un prophète dont la réussite va lui faire atteindre les sommets des honneurs. Cet homme au songe dont se moquaient ses frères est à nouveau remarqué, voilà, à nouveau, c'est plus fort que lui. Il est à nouveau élu, choisi par le pharaon, cette fois-ci c'est mieux encore, et il est élevé aux plus hautes fonctions d'Égypte. C'est le premier ministre, le responsable de la richesse du pays. Une fois encore, il est préféré, lui, l'ancien esclave étranger, à qui on confie la gestion des ressources du pharaon. Il réussit, c'est plus fort que lui. Il fait même réussir ses maîtres. Quand il était au service de Potiphar, les affaires de Potiphar, mais vraiment, marchaient du feu de Dieu. Et c'est la même chose avec le pharaon. On peut dire que c'est un Hébreu totalement assimilé d'ailleurs. On lui donne pour épouse la fille d'un prêtre égyptien. Et comme d'ailleurs le montre le texte qu'on lit, l'agencement du repas notamment, on voit que les codes de la bonne société égyptienne n'ont plus de secret pour lui. C'est exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et avec ça, ce Joseph, il a la réussite modeste. Il se hâte de corriger l'impression qu'il fait en brillant et en interprétant les rêves, parce qu'il ajoute tout de suite à Pharaon, qui est impressionné par Joseph, « Ah, mais tu sais, même sans moi, Dieu saurait donner une réponse salutaire au Pharaon. » Donc la réussite de Joseph, ce qui fait qu'on le remarque, c'est que lui, Joseph, il sait remarquer la présence de Dieu dans son histoire, pourtant très chahutée. On ne sait pas grand-chose de ses sentiments au moment de ses épisodes les plus terribles, c'est-à-dire au moment où il est en prison, au moment où il est dans une fosse en attendant d'être vendu à des marchands. On ne sait rien de ces moments terribles de sa vie. On remarque qu'une chose, on voit qu'il tient bon, et au fil du texte, on voit que Dieu se tient toujours à ses côtés, sans jamais rien dire. On note que c'est Joseph qui fait parler Dieu et qui lui attribue finalement les mérites de sa réussite. Et quand il parle de Dieu, c'est pas pour se plaindre, pour dire « Ah oui, les malheurs, c'est Dieu qui m'a pas aidé, j'étais injustement puni, on m'a pas respecté, mes frères ne m'aiment pas ». Non, il ne se plaint pas de Dieu, il ne se plaint pas non plus à Dieu, en tout cas le texte ne le dit pas. Quand il parle de Dieu, c'est toujours pour le désigner comme l'auteur de sa réussite. La saga de Joseph, dans toute sa longueur, parce que c'est très long, hein, la saga de Joseph fait du Seigneur le garant d'une histoire qui peut se poursuivre. En effet, grâce à l'interprétation des songes du Pharaon, la famine qui menace l'Égypte et même toute la région, eh bien cette famine est contournée pour le peuple. Et puis Joseph peut déployer son talent d'organisateur par un plan de prévention. Il fait des réserves de blé pendant les années de riches récoltes en vue des mauvaises récoltes, comme l'indiquait le rêve. Cette capacité d'interpréter la volonté de Dieu, c'est ce qui va laisser libre la voie au projet généreux de Dieu. Il ne fait pas grand-chose, il ne fait qu'aménager la volonté de Dieu. La vie assurée et la vie pleine, malgré la rigueur des temps, c'est ça la volonté de Dieu. Et cette attention, cette capacité de lecture des temps, du temps présent, elle déborde le cadre de ses propres intérêts et de ses intérêts immédiats. Parce que c'est par elle qu'il met en place de quoi faire des réserves, de quoi assurer la survie des peuples alentours et de quoi assurer la survie de sa propre famille. Mais ça, il ne le sait pas encore. La vie de Joseph, telle qu'elle nous est racontée ici, ne cherche pas à nous vanter la réussite des premiers de cordée. Elle ne cherche pas non plus à mettre en avant la capacité à la résilience, vous savez, cette capacité qu'ont les petits personnages rebondissants de nos dessins animés préférés. C'est pas ça qu'elle cherche à mettre en valeur en parlant de Joseph, non. Elle nous dit tout simplement l'ampleur du projet de Dieu, la sollicitude de ses messages par la bouche de ses hommes attentifs, comme Joseph, mais aussi la mesure démesurée de ses dons, de ce mot tellement vieillot, mais quand même qui dit exactement ça, de cette providence. Il voit avant nous ce dont nous avons besoin et il nous donne les outils pour que nous puissions y remédier. Il nous montre, Joseph nous montre cette providence qui permet de pourvoir à nos besoins essentiels. Alors, nous aussi, nous pouvons être comme Joseph, attentifs à la parole de Dieu qui ne parle pas beaucoup, qui est très discret. Nous sommes chacun, nous aussi, remarqués et choisis par lui. Osons le dire, nous sommes tous les préférés de Dieu, les chouchous de Dieu, comme Joseph. De manière à ce que nous puissions interpréter le travail discret de son amour dans notre vie, mais aussi le travail de son amour dans notre entourage et pour notre société. En étant attentif, en interprétant les textes de sa parole, qui d'ailleurs souvent ont l'allure de rêve, Marc la semaine dernière a lu le sermon sur la montagne, on rêve. Sinon vous connaissez les promesses stimulantes d'Ésaïe, le loup qui mange avec l'agneau, ça aussi on rêve, les encouragements que Jésus donne peu avant sa mort, comme j'ai lu tout à l'heure, le cadeau de l'esprit, etc. On a l'impression que là on rêve. Ben oui, nous on peut être des Joseph qui lisons avec les yeux de l'esprit à la fois les textes qui semblent être des rêves, mais aussi on peut lire avec ses yeux nos défaites et nos triomphes. Ce ne sont que des étapes provisoires et nous pouvons les vivre en paix avec ce shalom intime, de faible apparence certes, mais au potentiel élevé. Lire et interpréter notre vie, lire et interpréter les textes de la Bible et on verra se développer en nous et autour de nous cette aptitude à épouser les accidents de terrain tout en gardant l'espérance et une certaine cohérence dans notre vie. Mais revenons à ce repas quand même, parce que là, je ne tiens pas ma promesse. Les 11 frères ont dû revenir en Égypte parce qu'ils n'avaient pas acheté assez de blé pour le premier voyage. Donc, ils reviennent chercher du blé. Et là, ils ont dû, à la demande de Joseph, ils ont dû déchirer à nouveau le cœur de Jacob en demandant d'amener Benjamin, l'autre fils de Rachel, sa femme préférée. Alors là aussi, les frères, on ne peut pas dire qu'ils ont changé. Toutes ces années, ils ont complètement éliminé leur frère, n'en parlent plus. Et s'ils veulent redescendre avec Benjamin, ce n'est pas pour libérer Siméon, qui est pris en otage contre Benjamin, c'est parce que la nécessité les a poussés à se rendre à nouveau en Égypte. Il n'y a plus assez de blé chez eux. Les frères de Joseph, on le voit, n'ont pas affiné leur disposition fraternelle pendant toutes ces années. On le sait, nous, on le sait bien avec notre propre existence. Quand on légitime une faute grave, on est prêt à poursuivre et en faire une série d'autres. Et c'est là qu'on trouve le sens du jeu que joue Joseph. Avec ses frères, il prend le masque cruel des puissants. Il accuse à tort, vous êtes des espions, vous avez volé. Et il a fait mettre justement de l'argent dans les sacs pour les prendre preuve à l'appui et les accuser de vol. Il les fait même passer par l'effroi, par l'incompréhension, par le sentiment d'injustice, tous ces états qu'il a dû connaître lui, par leur faute. Alors les frères doivent faire le chemin de Joseph sans le savoir. Et sans s'en douter non plus, ils reprennent le chemin du passé. Ils ont rendez-vous avec leurs responsabilités qu'ils ont laissées s'envoler. Il ne peut pas y avoir de réconciliation dans la vie sans évoquer le préjudice avec précision, sans le comprendre vraiment de l'intérieur, sans se l'approprier, c'est-à-dire sans en répondre avec conviction. Et pour cela, Joseph ne les accuse pas directement parce qu'il serait là à se cabrer, à dire c'est pas vrai, à se justifier. Pour cela, Joseph se cache sous le masque de son identité impressionnante d'Égyptien qui a réussi. Parce que regarder sa faute en face, c'est impossible pour tout le monde. C'est très difficile de regarder nos fautes en face. La vérité brûle le regard. La vérité, elle roussit notre conscience. On a l'impression qu'on prend feu. On ne peut pas supporter cet état-là. On préfère argumenter à l'infini. On préfère rejeter la faute sur autrui. Et puis, la responsabilité sur les circonstances. C'est ce qu'on appelle l'auto-justification. Et alors, on s'y lance avec d'autant plus de rigueur et de talent que la faute est lourde à porter. Là est le péché. Le péché qui n'est que l'enfermement d'un cœur cadenassé sur lui-même et sur la défensive. Alors, pour éviter ce piège, Joseph met en place un petit bricolage, mais assez ingénieux quand même. Enfin, on peut dire un bricolage complexe et très patient. On appellerait ça, nous, un jeu de situation. Alors les frères sont pas du tout au courant puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne peuvent que vivre et recevoir la situation. Et c'est un surcroît. Alors là, l'attitude de Joseph est plus qu'étonnante et ça n'est pas un piège. C'est un surcroît d'amour qu'il aurait donné comme remède pour leur débordement de haine passée. Mais avec la délicatesse qui est nécessaire pour ne pas jouer ce qui pardonne avec grandeur. Vous voyez qu'il y a une distance. Ils ne mangent pas à la même table. Ils ne mangent pas les mêmes plats. Et c'est l'intendant, lui, qui dit les paroles de paix qu'ils étaient incapables de dire à leurs frères. Parce que quand il dit « ne vous inquiétez pas », en hébreu, c'est « shalom à vous ». N'ayez surtout pas peur. C'est par la bouche de l'intendant égyptien qu'ils apprennent le rôle de Dieu dans ce piège embrouillé. Mais c'est Dieu qui assume la faute. C'est lui qui les dédouane. C'est lui qui a mis l'argent dans leur sac. Les frères de Joseph, on remarque, sont assis en face de lui, mais le texte dit qu'ils se regardent les uns les autres. Ils ne regardent pas Joseph. Et peut-être qu'en se regardant les uns les autres, on peut imaginer qu'ils voient leur passé, qu'ils se voient dans leur agissement passé et qu'ils commencent à se regarder autrement les uns les autres. Vous voyez, la préférence initiale qui avait provoqué la rupture, elle est à nouveau mise en scène. Mais c'est une scène inversée, parce que d'abord il met les aînés, puis après il met le plus jeune. Mais le plus jeune reçoit 5 fois plus que les aînés. Vous voyez, là, il y a déjà un début de mise en situation. Ils peuvent revivre une injustice. Bah, pourquoi on donne 5 fois plus au plus jeune? D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est l'aîné qui a les honneurs. Et vous voyez que là, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Et Joseph lui-même est débordé. Il est débordé peut-être par ce mouvement, en fait, qui est plus grand que lui et qui peut-être vient du fond de son cœur, là où est la présence de Dieu. Joseph, lui aussi, laisse le passage au plus enfoui en lui. Vous savez, toutes ces larmes qu'il n'a peut-être sans doute jamais laissé couler, toutes ces larmes dues au rejet, le rejet du préféré, le rejet de l'élection, le rejet du choix préférentiel, le rejet de l'amour indu du Père. Eh bien, ces larmes-là, c'est rare qu'on voit quelqu'un pleurer dans la Bible. Ces larmes, ce sont des larmes d'émotion, bien sûr. C'est aussi les larmes de la sensibilité blessée de Joseph, car il doit encore garder un temps ce masque de cruauté pour aider ses frères à refaire le parcours du passé sans se sentir accusé et sans rentrer dans l'auto-justification. Mais nous, comment ne pas voir dans ces larmes qu'il se hâte de cacher par pudeur celles de notre Dieu? Les larmes de Jésus, parce que Jésus aussi pleura. Jésus, ce Dieu pudique qui, devant nos errements, devant nos rivalités assassines, autant que devant nos auto-justifications et devant notre déni du péché, est brisé. Il voit notre faiblesse. Ce sont des larmes qui disent la souffrance d'un père qui voit les ravages de l'envie de l'autre, de la jalousie pour notre plus proche. Notre haine, parfois, de notre semblable, de notre frère, celui que nous n'arrivons même plus à reconnaître, à voir comme tel, comme notre frère, à cause du mal que nous lui avons fait. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 25, les strophes 1, 2 et 4. Ah, c'est le psaume, excusez-moi, le psaume.
Jamais ne se
Je vous invite à vous asseoir. Pour vous mettre au courant de quelques annonces, lundi 20 novembre, il y a l'initiation à la théologie à 20h avec le pasteur Marc Pernon, la troisième soirée du cycle de 6 lundis jusqu'au 11 décembre. Et donc lundi 20 novembre, ce sera le Christ. Je ne sais pas si en une séance on peut dire beaucoup de choses, mais... Mercredi 22 novembre, il y a la réunion des étudiants et des jeunes actifs de 19h30 à 21h. C'est un dîner et un débat qui sont partagés. Et le dîner et le débat. Si vous le pouvez, apportez quelque chose de salé, de sucré, ou sinon, si vous êtes un peu paresseux, apportez une boisson. Alors, jeudi 23 novembre, c'est l'hébreu biblique pour les débutants de 19h30 à 21h avec Christophe. Et le cœur de l'oratoire a une répétition de 19h30 à 22h. Bienvenue parce que le cœur recrute, je pense, dans tous les pupitres. Vendredi 24 novembre, c'est le conseil lecture Martin Luther entre ciel et terre, de 20h à 21h30 au Temple. À l'occasion du 500e anniversaire de la publication des thèses de Martin Luther, qui ont donné naissance au protestantisme, Didier Sandre, que vous connaissez bien de la Comédie française, prête sa voix à Luther au travers d'extraits choisis, illustrés par le violon baroque d'Helen Schmidt, autour de Bach, Westhoff et Telemann. Libre participation aux frais. Samedi 25 novembre, Parole et silence, de 18h à 19h, aux 4 rues de l'Oratoire. Ce moment de partage autour des chants, des textes et des prières et de recueillement est sous la direction du pasteur Richard Cadou. Dimanche 26 novembre, venez chanter à 9h30 pour apprendre les cantiques et les psaumes qui seront chantés lors du culte qui suivra avec le chœur donc de l'oratoire et bienvenue à tous. Le culte à 10h30 sera présidé par Marc Pernot et il y aura une sainte scène. Mardi 28 novembre à 20h, alors une conférence de Marie Balmary, Bible et psychanalyse, avec François Rancillac, un philosophe, le philosophe et directeur du Théâtre national de l'Aquarium, sur la divine origine, chercher la faute. C'est le moment de l'offrande.
chers amis, bien, bonjour. Juste quelques petits compléments d'information que le pasteur Regina Müller, que nous remercions pour sa prédication, n'a pu vous donner parce que malheureusement, il ne figurait pas sur son petit carnet de notes. Je vous rappelle que la vente donc, aura lieu au mois de décembre prochain et que samedi 18 et 25 et le dimanche 26 novembre, vous pourrez déposer, vous le savez, dans la maison presbytérale le samedi de 14h à 16h et puis le dimanche, dimanche 26 novembre de 10h à 12h, vous pourrez déposer des objets pour la vente annuelle qui se déroulera le 2 et 3 décembre prochain ici. C'est un événement très important pour notre paroisse et pour l'entraide, puisque vous le savez, tous les profits de cette vente sont remis intégralement à notre association d'entraide. Des informations aussi à caractère musical, samedi prochain à 17h, ici, pour ceux qui aiment le Franz Liszt, il y aura un concert de piano de 17h à 18h, une heure, au profit d'une association protestante, une fondation protestante qui s'occupe de la mise sous tutelle des adolescents et qui donc offrira ce concert de piano portrait musical autour de Franz Liszt. Et puis le dimanche 3 décembre, après la vente, il y aura le concert bien sûr annuel qui aura lieu ici, c'est que du Bach pour les 500 ans de la Réforme, Isabelle Hureau, Sylvie Juniot, que vous connaissez bien, Sarah Kim, notre organiste titulaire, Constance Luzzati, Marion Unal et Gilles Donneau donc, donneront un concert ici au Temple. C'est le concert traditionnel après la tenue de la vente et donc après le culte l'après-midi, donc à 17h. Et puis, je voulais aussi que vous notiez une date qui est le 10 décembre. Là, il y aura le concert de Noël du chœur de l'oratoire et avec un orchestre et à l'orgue Alexandre Korovitch qui aujourd'hui accompagne nos chants, qui est organiste suppléant ici et qui sera avec Sarah Kim, organiste titulaire, plus le chœur de l'oratoire et un orchestre, donc qui donneront le grand concert de Noël de notre chœur et de la maîtrise de l'oratoire sous la direction de Fabien Aubé. Donc je voulais que vous notiez toutes ces dates très musicales pour cette fin d'année. Merci, bon dimanche à tous.
Nous faisons silence pour élargir notre prière à la mesure du cœur de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos intelligences à ton amour. Cet amour plus grand et plus fort que tout ce dont nous sommes capables. Que l'immensité de ta tendresse pour chacun et chacune de nous nous relève de nos découragements, nous ressuscite de notre mal de vivre ou de notre mal d'être. Que l'infinie largeur de ton amour nous invite également à élargir nos amours humaines, à nous faire plus proches des autres, surtout de ceux dont nous n'avons pas spontanément envie de nous approcher. Nous te le remettons dans le secret de notre cœur. Nous te remettons aussi celles et ceux de nos frères auxquels nous tenons particulièrement et qui ont besoin de ton souffle et de notre tendresse. Nous te le remettons et nous voulons élargir notre prière à tous les hommes et toutes les femmes de ce monde en te priant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur, cette bénédiction si vaste, si imprévisible, qu'elle peut prendre en charge tout ce qui encombre notre cœur, tout ce qui voile notre regard et qui nous empêche de voir nos frères comme ils les voient. Aller dans la joie, dans la liberté et dans la paix du Christ. Amen.